Alors, nous accueillons un autochtone. Tout à fait. Monsieur Sylvain Buteau, qui est de la Haute-Vienne et qui est fondateur de NTech Conseil, donc expert en IA, en cybersécurité et en inclusion numérique. Monsieur Buteau est passionné de technologie et d'innovation. En fait, vous avez fondé votre entreprise à la suite... Moi, j'ai tout copié sur Internet, hein. Non, Google. Non, j'ai pas... Google. Alors, monsieur a fondé son entreprise à la suite d'une expérience personnelle qui était d'aider sa grand-mère à se servir de son smartphone pour avoir une communication avec ses petits-enfants. Voilà. Donc, cette expérience lui a fait réaliser l'importance de rendre la technologie accessible à tous. Donc, accompagner les personnes et les organisations dans leur transformation numérique en mettant l'accent sur l'inclusion et l'accessibilité. Pour évoquer les panoramas des usages concrets, de l'IA dans le travail social, mais aussi peut-être un peu le revers de la médaille, Monsieur Buteau va nous partager ses réflexions. Merci beaucoup.
Je vais prendre ce micro-là. Merci à vous, merci à tous, d'être aussi nombreux. Un grand merci évidemment à l'Université de Limoges de nous accueillir ce matin et un grand merci au CNDPF de m'avoir invité à venir discuter un petit peu avec vous de ce sujet de l'intelligence artificielle avec une approche effectivement alors qui est nettement moins universitaire. Alors je vous promets déjà deux choses, il y aura moins de torticolis puisque globalement je vais rester là. Mais je vais naviguer entre différents écrans de mon ordinateur pour vous montrer des exemples concrets de ce qu'on peut faire et ce qui est déjà accessible aujourd'hui. Et je vais également, à travers cette intervention, essayer de rester, j'allais dire, dans ce que je vis au quotidien, moi, effectivement, en tant que formateur en inclusion numérique depuis de nombreuses années, médiation numérique, insertion professionnelle, et depuis deux ans et demi, formateur IA auprès de différentes organisations, administrations, des communautés de communes sont en train de se former, des communes, des grandes administrations d'État, mais pas que, je forme également plein de TPE, PME sur des territoires ruraux, puisque moi je suis du sud de la Haute-Vienne et j'ai créé en partenariat avec un autre organisme de formation qui s'appelle l'Escalier, qui est un tiers-lieu rural à Saint-Léonard-de-Noblat, tout un cycle de formation et on égrène nos formations, je vous dis ici à une mairie, ici à des patrons de TPE, PME, des agents administratifs, etc. Et j'aimerais surtout remercier le CNDPF d'avoir mis aujourd'hui à l'honneur et pendant deux jours ce sujet qu'est l'intelligence artificielle. Alors je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit au cours de la première intervention. Oui, selon moi, il s'agit d'un sujet majeur. Alors c'est une révolution technologique, hein, une de plus diraient certains, une de trop diraient d'autres. Mais c'est une révolution technologique qui a une petite propriété particulière. On constate, et on va estimer, alors pareil, hein, je ne vais pas revenir sur les dates, etc., je suis totalement d'accord, même si selon moi, l'intelligence artificielle, et même avant Alan Turing et ses premiers travaux et la conférence de Dartmouth, mais bref, moi je vais mettre l'an zéro aujourd'hui d'intelligence artificielle générative à l'arrivée de ChatGPT, c'est-à-dire il y a deux ans et demi. Voilà, on va considérer que c'est l'an zéro, c'est à ce moment-là où le grand public, vous, tous, moi, on découvre ce qu'on avait pour certains imaginé. Et juste un petit chiffre par rapport à ça, on va dire que depuis deux ans et demi, on est sur la technologie qui, dans l'histoire de l'humanité, a le plus fort taux d'appropriation. En effet, en deux ans et demi, on est à peu près 1 milliard d'utilisateurs quotidiens de l'intelligence artificielle. Hein. OpenAI a sorti ses chiffres la semaine dernière, il revendique 700 millions d'utilisateurs quotidiens. On n'a pas encore les chiffres de Gemini, Copilot, Mistral, DeepSeek, hein, je ne vous parle même pas des IA chinoises, etc. Mais effectivement, quand on compare, alors je ne vais pas remonter dans les temps immémoriaux de l'invention de l'écriture, par exemple, qui a mis plus de 2000 ans à s'installer comme révolution technologique majeure, ni même de l'imprimerie, qui a mis des centaines d'années à s'installer en tant que révolution technologique majeure. Je vais revenir juste sur celle que j'ai vécue moi de mon vivant, voilà, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, puisque j'ai 45 ans et je suis né en 1980. Je vais juste reprendre les principales que j'ai connues moi, c'est l'arrivée de l'informatique et du micro-ordinateur dont on parlait tout à l'heure, qui a mis 30 ans entre le moment où on a inventé cet objet, le micro-ordinateur, et le moment où il est arrivé vraiment comme objet de référence dans tous les foyers. Et je vais vous parler d'un autre objet qui me concerne particulièrement, c'est l'arrivée du smartphone. Moi, en 2007, je suis en boutique de téléphonie mobile, je suis jeune vendeur en boutique de téléphonie mobile, puis après j'aurai par la suite mes magasins, et je vois arriver ce truc-là, et tout le monde me dit, enfin, mes patrons me disent, c'est formidable, il faut que tu vendes ça à tout le monde, tu vas voir, c'est génial, il y a Internet partout, tout le temps, il y a des applications. J'ai mis 10 ans, à peu près, à vous convaincre tous, que Internet partout, tout le temps, c'était génial, et que des applications, c'était incroyable. Parce que pendant des années, pendant au moins 4, 5, 6 ans, on me disait, non, moi, un portable, vous savez, c'est un bel appareil photo, des grosses touches et un petit clapet. Voilà. Donc même le smartphone, dont on a l'impression aujourd'hui que c'est un objet du quotidien, a mis quasiment 10 ans à s'installer au niveau mondial. Et l'IA, on constate que effectivement l'appropriation est beaucoup, beaucoup plus rapide, et il y a aussi une grande différence générationnelle, évidemment. Petit chiffre comme ça avant de commencer, je discutais la semaine dernière avec une chercheuse de l'université de Limoges, enseignante-chercheuse, qui vient de mener des études justement sur l'utilisation de l'IA à l'université. Et selon ses premières conclusions, 95% des étudiants utilisent l'IA au quotidien dans leurs études, contre 62% de la communauté enseignante. Et elle essayait son boulot à elle, ça va être d'expliquer à la communauté enseignante, effectivement, que c'est un outil, et vous allez voir, pendant une heure, je vais vous parler de logiciels, je vais vous parler d'outils. Je vais essayer de rester dans des propos pragmatiques et voilà, sans partir dans la science-fiction ou autre. C'est un outil qui, bien cadré, bien formé et bien utilisé, peut être performant pour tout un tas de sujets. Et c'est ce que je vais essayer de vous prouver aujourd'hui à travers quelques exemples que j'ai choisis et que j'ai testés par rapport à vos métiers. Donc, une nouvelle fois, merci pour l'invitation et merci pour la prise en compte de ce sujet majeur. Alors, je me présente effectivement rapidement. Cette anecdote est tout à fait vraie. J'avais des magasins de téléphonie mobile. Quand j'ai revendu mes magasins de téléphonie mobile, je me suis dit finalement, qu'est-ce que je préférais faire dans mon métier ? Est-ce que c'était vendre des téléphones, des assurances et des coques ? Pas vraiment. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était plutôt d'aider les gens à utiliser justement ce nouvel outil, essayer de leur faire comprendre l'intérêt que ça pouvait avoir pour eux. Et l'anecdote de ma grand-mère est tout à fait vraie. Moi, je suis lyonnais, ça fait plus de 20 ans que je suis à Limoges. Ma grand-mère était à Lyon à l'époque. Et c'était le seul moyen pour qu'elle puisse voir ses petits-enfants toutes les semaines. Donc je lui ai mis un smartphone dans les mains, je l'ai formé, je l'ai accompagné. Et jusqu'à la fin de sa vie, toutes les semaines, on a pu faire une visio avec ses petits-enfants. Et j'ai trouvé le concept tellement formidable que je me suis dit, mon métier, c'est ça, c'est d'essayer d'amener le numérique auprès des gens qui en sont le plus éloignés. J'ai donc fait, depuis ces 10 années, beaucoup de formations en inclusion numérique, donc dans des milieux protégés, ESAT, CCAS, dans les écoles, dans les maisons de retraite, enfin bref, je me suis baladé un petit peu là-dedans. Et l'insertion professionnelle, puisque j'interviens, je vous en parlerai derrière à travers un exemple, régulièrement dans des formations comme les amorces de parcours, comme l'école de la seconde chance. On a la chance d'avoir sur la Haute-Vienne deux sites, donc d'un dispositif national que vous connaissez peut-être, qui est dans vos régions et sur lequel vous avez peut-être déjà fléché d'ailleurs des jeunes que vous avez, les écoles de la seconde chance, où j'interviens évidemment dans le volet numérique. Et alors moi, l'IA, c'est quelque chose qui me passionne depuis très nombreuses années, puisque la première conférence que j'ai faite, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, l'IA, c'était Siri qui racontait une petite blague. C'était le seul truc un peu d'IA que je pouvais montrer. Alors j'expliquais quand même qu'on utilisait déjà l'IA à l'époque, à travers les GPS, à travers déjà les algorithmes de recommandation que vous avez, à travers vos applications, Spotify, Amazon Prime et tous les autres. Mais j'expliquais il y a 7 ans donc ce qu'on vit aujourd'hui. L'assistant personnel qui est capable de vous écrire un courrier, qui est capable d'aller vous réserver une chambre d'hôtel, qui est capable d'anticiper vos vacances et de vous faire un programme adapté à votre famille. Bref, tout ce qu'on est en train de vivre effectivement maintenant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Et il y a 7 ans, on me prenait pour un uluberlu. Et petit à petit, les choses ont changé. Et les premiers qui m'ont écouté il y a 7 ans me disaient « Finalement, t'étais même des fois loin de la vérité et de ce qui est en train de se passer ». Donc voilà pour moi, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette petite intervention, c'est trois phases. La première, je vais également revenir sur une définition de l'intelligence artificielle, mais je vais essayer de le faire peut-être avec simplement avec mes mots à moi. Voilà, je suis pas chercheur, je suis juste effectivement un formateur, et j'essaye de trouver des images pour essayer de faire comprendre des concepts. Voilà, c'est mon métier au quotidien. Et sur l'intelligence artificielle, justement, je pense qu'il faut sortir de cette science-fiction. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. On va pas se mentir, la première approche qu'on a tous ici, puisque est-ce qu'il y a un spécialiste de l'algorithme ici ? Voilà. Donc je vois pas trop de mains se lever. Et donc je suis d'accord avec ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il n'y a donc aucun spécialiste de l'intelligence artificielle, y compris moi, hein, même si je l'utilise depuis de nombreuses années, même si je m'y intéresse, même si j'ai fait des recherches, même si je suis un bêta-testeur et que je teste plein de choses. Je ne sais pas fabriquer de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment est vraiment composé un réseau de neurones, même si je commence à en avoir une idée maintenant. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui seront encore sur Limoges ou s'il y a des gens du coin, on fait la fête de la science la semaine prochaine au musée Adrien Duboucher à Limoges, et on vous a construit un vrai neurone artificiel pour montrer un petit peu ce que c'est et comment ça marche. Et donc, effectivement, le programme, ça va être de vous expliquer, ensuite de vous montrer des cas concrets, des cas d'usage dont j'ai eu à me servir moi, mais également qui pourraient vous servir demain. Donc on va voir un petit peu ce qu'on appelle l'automatisation, on va voir ce genre de choses-là. Oui, je suis d'accord, toutes les tâches administratives ne sont pas algorithmisables. Vous savez, il y a une expression qui dit que tout métier algorithmisable sera algorithmisé. Voilà, alors je reviens sur la définition d'algorithme, c'est bien une suite finie, non ambiguë d'instructions menant à la résolution d'un problème ou d'une classe de problèmes. Ça, je pense qu'on est dans l'ordre de l'expression, mais il y a quand même certaines tâches administratives qui, selon moi, peuvent être effectivement facilitantes et vont vous permettre surtout de gagner du temps. Moi, mon boulot au quotidien, quand je vais voir un petit chef d'entreprise ou une petite équipe industrielle, etc., c'est de leur faire gagner du temps. Voilà, en leur expliquant qu'avec certains usages et en imposant le contrôle, etc., on reviendra sur la dernière partie, sur notre posture vis-à-vis de l'IA, sur les biais, etc., j'y reviendrai aussi parce que c'est très important. Je ne suis pas ce qu'on appelle un data évangéliste, je ne dis pas c'est formidable, il faut utiliser pour tout le temps, etc. Mais je dis que bien cadré, bien utilisé et en étant bien formé, ça peut vous faire gagner du temps. J'en suis un exemple, je pense assez flagrant, puisque en 2 ans, j'ai énormément changé mes process. Et ça me permet, par exemple, en tant que formateur pour adultes, de passer historiquement de 2 à 3 jours grand maximum par semaine en salle, puisque historiquement, une journée de formation, c'est 2 jours de préparation, c'est comme ça, quel que soit le sujet, même si c'est des sujets que vous avez déjà abordés, etc. Bon, mais j'ai énormément réduit ce temps de préparation, puisqu'en fait, avec l'IA, on va passer d'un gros temps de production à un petit temps de vérification, à un petit temps de production et un beaucoup plus gros temps de vérification. Mais si c'est des sujets que vous maîtrisez, alors ce temps de vérification est évidemment très inférieur au temps de production. Même si c'est très important, et je suis d'accord, de continuer de produire, et c'est pour ça qu'il faut faire des distinctions entre ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire. Je vais vous regarder beaucoup, parce que forcément, vous êtes la première intervenante, et je me réfère toujours... vous êtes docteur, quoi. Moi, je suis pas docteur. Et donc, ça fait 2 ans que je fais des conférences et que je fais des formations. Alors, juste une petite question comme ça, par rapport aux statistiques qu'elle a données tout à l'heure. Allez, levez la main, vos patrons sont pas là, S'ils sont là, bon, tant pis. Allez, qui a déjà utilisé l'IA dans sa pratique professionnelle ? Levez la main. Ok, donc on a déjà quand même quelques personnes. Alors sachez que ça, c'est pareil, je vous parlais du temps d'appropriation de l'IA tout à l'heure. On aurait fait ce congrès il y a 1 an, vous étiez 2 à lever la main dans la salle. Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est, allez, vraiment, si on se pose 2 minutes... Est-ce que vous pensez que l'IA, ça peut vous faire gagner du temps ? Levez la main. Ok, bon, là-dessus, du coup, j'aurais pas trop besoin de vous convaincre. Avant de passer justement à cette histoire de définition de l'IA, alors tu me tiens au courant des timings, tout ça. Je répète ce que je vous ai dit en entrée. Ce qu'il faut vraiment essayer de s'enlever, c'est cet aspect science-fiction. Moi, je vais vous présenter l'IA comme un logiciel. Alors un logiciel qui n'est pas tout à fait classique, c'est pas Word, c'est pas Excel, bien sûr, mais c'est un logiciel, enfin c'est des logiciels, il y a des IA, je suis totalement d'accord aussi avec ce que j'ai entendu. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais anthropomorphiser un ou des logiciels d'intelligence artificielle. C'est une grosse erreur qu'on commence à constater dans certains continents. Les États-Unis sont très soumis à ça. Ce qui explique d'ailleurs qu'au changement de version de ChatGPT, alors pour ceux qui ont suivi, ChatGPT a fait une grosse mise à jour au mois d'août. Ils sont passés des versions 4, 3, etc., à la version 5. Et en fait, ils ont totalement changé leur approche. Mais vraiment, je vais schématiser volontairement, mais on est passé d'une approche depuis la sortie de ChatGPT à le modèle, sa seule et son unique but, c'était de vous satisfaire. Vous posiez une question, les algorithmes d'OpenAI et les paramétrages qui avaient été faits par les programmeurs, parce qu'il y a toujours un programmeur derrière un algorithme quand même, eh bien, l'unique but d'OpenAI, c'était de vous satisfaire. Ils ont eu un énorme problème, tout le monde en a entendu parler, on m'a déjà posé la question, la consommation d'énergie, etc. Et pour eux aussi, c'est un problème. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils vont construire, Amazon va construire une centrale nucléaire pour pouvoir assumer ses besoins en énergie, etc. Donc OpenAI a eu aussi ce problème-là. Du coup, ils ont changé les paramètres de l'algorithme. Ce qui fait que si vous utilisez ChatGPT-5 demain, le premier but de ChatGPT-5 n'est plus de vous faire plaisir, mais il est de consommer le moins d'énergie possible. Ils ont changé les paramètres d'une nuit à l'autre. C'est pour ça que quand on entend des choses sur l'IA, ce qui a été fait en 2023 n'a plus rien à voir avec ce qui est fait en 2025. On est sur une technologie qui évolue d'une manière... Enfin, il y a des milliards et des milliards qui sont mis par des dizaines et des centaines d'entreprises dans le monde pour faire évoluer la technologie. Donc oui, on a beaucoup baissé la consommation d'énergie depuis les premières versions de l'IA générative. Oui, on a beaucoup baissé le taux d'hallucination. Donc le taux d'hallucination, vous savez, quand une IA hallucine, c'est justement qu'elle invente. C'est vrai, c'est des modèles probabilistes. Ils vont faire des stats par rapport à ce qui est attendu derrière. Mais on réduit, encore une fois, au fur et à mesure des sorties, des nouvelles mises à jour, ce taux d'hallucination. Et finalement, l'IA, encore une fois, c'est pas de la science-fiction. Moi, j'ai trouvé une image. Vous savez, l'informatique, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle a été réservée à une élite pendant 50 ans, quasiment. On a parlé de Turing tout à l'heure, on parlait des ordinateurs. Vous savez qu'avant l'arrivée justement des systèmes d'exploitation, le leader de l'informatique, ça s'appelait IBM, International Business Machine, c'était des ordinateurs qui faisaient la salle entière et qui avaient déjà des tonnes de fonctions. Puis dans les années 90, il y a plusieurs personnes en même temps qui se disent « Mais cet engin-là, l'ordinateur, il est formidable. Et finalement, je pense que tout le monde pourrait l'utiliser et tout le monde pourrait y trouver un intérêt. » Sauf qu'à l'époque, pour discuter avec un ordinateur, il fallait savoir le programmer. Il fallait connaître les langages de programmation, il fallait être informaticien. Donc il y avait une toute petite partie de l'humanité qui, pendant 50 ans, pouvait discuter avec un ordinateur ou programmer un ordinateur. Et puis on a créé ce qu'on appelle l'interface homme-machine, le système d'exploitation. Alors ça s'appelle Windows, ça s'appelle Android sur votre smartphone, ça s'appelle macOS, ça s'appelle Linux. Bref, c'est une interface qui vous permet de discuter avec la machine. Je vais appuyer sur la touche échappe de mon écran. Vous voyez que je suis passé d'un mode plein écran à un mode petit écran. Ce qui s'est passé derrière, j'en ai aucune idée. Le programme qui a exécuté cette fonction, je suis incapable de le formuler, je suis incapable de le programmer. Par contre, je vois que quand je bouge ma souris, alors j'ai un petit icône qui se déplace sur mon écran. D'ailleurs, si je change de fenêtre, je passe d'un icône qui ressemble à une croix à un icône qui ressemble à une flèche. Et tout ça, je n'ai pas à me soucier de comment c'est fabriqué, comment ça marche. D'accord ? Eh bien, l'IA, c'est exactement pareil. Sauf que l'interface homme-machine qu'on vous a fournie, au lieu d'être un bureau d'ordinateur comme ça, vous allez vous retrouver des icônes, etc. Eh bien, l'interface que vous allez avoir, c'est celle-là. Voilà ce qu'on appelle une interface homme-machine. Alors, je me reconnecte en Wi-Fi parce que je me suis déconnecté. Hop. Et que je vais quand même avoir besoin d'Internet pour me connecter. Et finalement, Windows, comme je vous l'ai dit, ça vous a permis d'avoir accès à des fonctions numériques complexes sans avoir besoin de les programmer. Vous avez pu créer des documents Word, vous avez pu imprimer des documents, truc incroyable avant l'informatique. Vous avez pu faire des tableurs Excel incroyables avec des macros compliqués qui vous font des calculs automatiques, etc. Tout ça, c'était impossible avant l'informatique. Donc Windows vous a donné accès à des fonctions numériques complexes. Okay. Ben, l'IA, les logiciels d'IA génératifs que vous voyez, qui s'appellent Mistral, ChatGPT, Gemini, etc., etc., c'est la même chose. C'est une interface entre l'homme et la machine, alors qui se présente sous la forme d'une fenêtre conversationnelle. Pourquoi ? Parce que sa grande révolution, finalement, à cette technologie, c'est dans la compréhension du langage. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est capable de comprendre quand on parle, et en n'importe quelle langue. Elle est capable de comprendre même certaines expressions. Hein, moi, quand je lui dis les gones, elle sait ce que c'est qu'un gone. Voilà. Alors que ici, pardon. Bon, il y a quelques Lyonnais, merci. Donc un gone, c'est un enfant à Lyon. Voilà. C'est ça, c'est un enfant lyonnais. Donc, je vous disais, c'est une interface entre l'homme et la machine qui vous permet d'accéder à des fonctions numériques complexes. Donc, c'est quoi une fonction numérique complexe ? Bah, c'est faire des analyses, effectivement, hein, ça peut être de l'analyse prédictive, ça peut être bah, de faire des dessins, des designs, etc. Vous allez le voir, hein, la facilitation graphique est extrêmement facilitée, justement, par l'intelligence artificielle. La transcription, je vais vous montrer derrière, la transcription d'un document complexe que vous traitez au quotidien en mode Falk est évidemment facilitée avec ces outils d'intelligence artificielle. Vous pouvez même créer demain n'importe quelle application métier. Moi, mon métier maintenant, je ne suis pas du tout développeur, hein, je ne connais aucun des langages de programmation. Par contre, maintenant, j'arrive à développer des applications métiers pour des entreprises. Une application qui va permettre de voir le temps de chargement d'un camion en 3D. Une application de facturation et de gestion de clients. Des CRM complets. Et tout ça, je vais le faire juste en parlant avec un logiciel, et je répète ce mot de logiciel, qui va comprendre ce que je lui dis, qui va exécuter des tâches complexes derrière, et qui va m'afficher le résultat. D'accord ? Donc voilà ce que c'est pour moi qu'il y a. C'est donc, comme je vous le disais, finalement, un nouveau Windows. Hop, et je reviens sur mon PowerPoint. PowerPoint qui, évidemment, hein, a été entièrement fait avec l'intelligence artificielle, comme vous le devinez, comme la plupart des contenus pédagogiques que je produis maintenant, avec justement la petite différence depuis le 2 août 2025, c'est l'application de l'IA Act qui impose ce devoir de transparence et qui impose de mettre sur mes supports, mes exercices, etc., et de vous dire en vrai que ces slides ont été fabriqués par un humain, assisté par une intelligence artificielle. Alors finalement, c'est pas de la magie, je vais pas revenir dans tout ce qui a été dit tout à l'heure, les types d'IA, c'est totalement factuel et réel, c'est bien des IA de prédiction, hein. On va prédire le mot suivant par rapport à des tonnes de données, voilà, vous avez fait telle demande, alors j'estime en tant que logiciel et entraîné sur une base algorithmique que ce que vous attendez comme réponse, c'est ça. Et finalement... C'est d'ailleurs ça qui est très compliqué en tant qu'humain à appréhender, parce qu'on a l'impression que c'est un humain. Et effectivement, quand on fait les premiers tests, hein, quand je mets des gens qui n'ont jamais utilisé d'IA générative, très rapidement, c'est très satisfaisant, parce qu'on a l'impression qu'elle nous comprend, que le logiciel nous comprend. Hein, quand je dis « il », « elle », je parle toujours d'une application ou d'un logiciel. Pourquoi je dis ça ? Parce que vraiment, on s'est aperçu aux États-Unis que tous ceux qui avaient un rapport trop proche avec l'IA, effectivement, avaient des troubles sociaux, mentaux, etc. Pourquoi ? Bah parce qu'ils en faisaient un copain, un ami. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour eux, hein, l'arrivée de ChatGPT-5, ça a été un coup de tonnerre aux États-Unis parce qu'il y a des tonnes d'ados qui ont perdu leur copain du jour au lendemain. Ils avaient un copain avec qui ils discutaient, qui était hyper chaleureux, et du jour au lendemain, ils avaient un prof hyper factuel, hyper clair, mais voilà, beaucoup moins empathique, etc., etc. Donc c'est pas de la magie, voilà, c'est pas vraiment un humain. Et c'est pour ça que nous, il va falloir qu'on soit alignés, c'est ce qu'on appelle l'alignement entre l'IA et la machine, entre l'IA et l'humain, pardon, il va falloir que nous, on s'aligne sur comment une IA est fabriquée, sur comment elle résonne, et finalement, essayer de la faire rapprocher de ce que nous, on a dans la tête. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle connaît tout ce qu'on a dans la tête, alors que pas du tout. Ça va être à nous de vraiment décrire ce qu'on a dans la tête pour avoir un résultat satisfaisant. C'est de la statistique avancée. C'est vrai aussi que c'est accessible à tous. Et ça, c'est la grande révolution. C'est ce qui fait, par exemple, que j'étais dans une grande organisation, une des plus grosses boîtes du Limousin, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, pour faire un premier webinaire avant d'enclencher un cycle de formation. Et ils m'expliquaient que même eux, dans leur métier, pourtant c'est une grosse boîte, hein, ils ne voyaient pas de concurrents possibles arriver sans une grosse infrastructure. Eh bien, ils commencent à voir arriver des concurrents qui n'ont aucune infrastructure, ou quasiment aucune, mais qui, par contre, ont développé des outils d'IA qui répondent à certains besoins. Donc oui, c'est accessible à tous, à vous en tant que professionnel, mais à vos usagers. Hein. Moi, je suis formateur pour adultes, je sais que tout ce que je vais faire avec l'IA, les gens vont être aussi capables de le vérifier, vont être aussi capables de l'utiliser. Il faut bien prendre conscience que c'est accessible à tous. Même si, et là je suis encore totalement d'accord, il y a une vraie discrimination, on y reviendra à la fin, entre les versions payantes et non payantes. puisque bah, on l'a vu déjà en termes de sécurité. Effectivement, quand je suis en formation, j'insiste toujours sur, hein, c'est la première chose qu'on fait, on va voir dans les paramètres de sécurité. D'ailleurs, je vous montre tout de suite où c'est pour tous ceux qui ont ChatGPT. Hop, quand vous allez dans votre profil et que vous allez dans la personnalisation, vous avez sécurité ici. Alors, pardon, gestion des données juste en haut. Et là, vous voyez, vous avez un truc qui s'appelle améliorer le modèle pour tous. C'est là la fameuse case à cocher ou à décocher. Je vous invite alors à décocher ou pas. D'ailleurs, chacun fait comme il veut. Moi, j'avoue que j'ai pas trop envie que mes données personnelles servent à entraîner les modèles d'IA. Même si on pourrait y revenir, hein, mais fondamentalement, quelle est la différence entre mettre un document sur ChatGPT et sur OneDrive ou Google Drive? Je me pose encore quand même pas mal la question. Et pour l'instant, personne n'est arrivé à me donner de vraies réponses. Mais je cherche encore. Hein. Pourquoi toutes les organisations ont largement accepté qu'on dépose tous nos dossiers sur un OneDrive ou sur un Google Drive, et que là, pour de l'IA, bien cadré, etc., ça soit un problème. Mais bon, bref. Je reprends le fil de ma démonstration. Et donc, c'est un outil, c'est pas un remplaçant, c'est ce que je vais m'attacher à vous dire tout le cours de mon intervention. C'est pas du tout là pour vous remplacer. Comme moi, ça m'a pas remplacé. Ça m'a permis de faire plus de choses, de les faire mieux. Honnêtement, hein, mes slides, mes PowerPoint avant IA et après IA, c'est le jour et la nuit. Hein. J'ai aucune capacité créative. D'ailleurs, ça m'a toujours plus ou moins fatigué de faire ce genre de document-là. Et là, j'admets que c'est une grande simplification pour moi. Mais comme l'a été avant d'autres outils numériques, hein, moi, je suis un malvoyant. Ce qui fait que le livre audio, par exemple, a changé ma vie. Je n'aurais jamais eu accès à la connaissance sans les livres audio. Voilà, ça fait partie des petits éléments numériques, hein, qui ont l'air de rien, mais qui peuvent changer parfois la vie des gens. Je vais vous donner quelques exemples concrets et je vais vous les montrer en direct pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Donc oui, une IA générative peut servir à la rédaction et à la reformulation. Alors je vous ai pris un exemple, hein, d'un document que vous traitez, j'imagine, au quotidien et que vous allez évidemment reconnaître. Une demande de complémenter santé solidaire. Donc là, on est dans le moment où vous êtes dans le bureau. Il va falloir commencer. Et oui, je parle toujours trop fort et trop près. Non, mais c'est bien de me le dire parce que je ne veux pas non plus fatiguer les gens. Donc là, on est sur un beau document administratif bien complexe. Et là, il faut expliquer à quelqu'un qui, des fois, parle mal le français, par exemple, ou alors qui a des facultés cognitives altérées, ou tout simplement qui est tellement perdu et tellement en dépression, ou tellement, tellement sous cacheton, ou etc., etc. Il y a des tonnes de raisons qui font que, parfois, vous avez un grand moment de solitude quand vous devez expliquer ce genre de grille, de cases à remplir, etc. Quand bien même vous avez une belle notice avant, hein, une notice de modification, une notice technique. Ben moi, j'ai justement pris ce document-là. Alors, je vais pas vous montrer tous les prompts que j'ai faits, puisque là, je reviens quand même sur un peu mon métier. Pour bien utiliser l'IA, et là, il va falloir mettre la pression à vos directions, à vos hiérarchies, il faut se former. Il faut apprendre le prompt engineering, il faut apprendre à cadrer sa demande, il faut apprendre à attribuer un rôle à l'IA, à lui donner le contexte, à lui donner la tâche, à comprendre quelles données on peut mettre, on peut pas mettre, qu'est-ce que j'anonymise et comment je l'anonymise, etc. etc. Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, on ne peut pas se lancer, et surtout d'un point de vue professionnel, directement dedans, sans prendre en compte un petit peu le contexte et les enjeux de cette nouvelle technologie. Donc, j'ai pris, je vous disais, votre document et hop, j'ai fait différents usages de votre document. Premièrement, je lui ai dit, tiens, j'ai besoin d'un document en facilitation graphique pour pouvoir donner ou afficher dans mon bureau une image un peu plus simple de ce que pourrait être la démarche et la procédure de demande de CSS. J'ai donc simplement envoyé le formulaire. Alors, j'ai pas vérifié derrière s'il y avait des fautes. Évidemment, enfin, j'ai pas vérifié. Si, j'ai vérifié d'ailleurs. Mais j'ai pas votre expertise. Donc en fait, moi, ce genre de tâche-là, je le fais que pour vous montrer que vous pouvez le faire. Par contre, évidemment, moi, je m'attaquerai jamais à produire ce genre de document-là sur ce sujet-là, puisque je ne connais pas le sujet. Et ça sera ma conclusion tout à l'heure, je vous le dirai. On ne se sert de l'IA que quand on est capable de vérifier ce qu'elle fait. Voilà. Mais en tout cas, dans le fait de m'avoir transformé un document complexe en facilitation graphique, elle l'a fait effectivement très très rapidement, en moins de 10 secondes. Voilà. Et puis derrière, je me suis dit, ok, c'est parfait, mais ce document, j'aimerais également en faire un document traduit en français et en arabe pour pouvoir expliquer les différentes étapes à faire pour pouvoir remplir ce document. J'ai donc fait une traduction factuelle, hein, puisque évidemment les outils d'IA, comme vous le savez, sont capables de traduire en direct de l'image, du son. Vous avez sûrement entendu les nouveaux AirPods d'Apple qui sont sortis, vont vous permettre de voyager dans le monde et d'entendre les gens dans votre langue naturelle, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Voilà. Comment ?
Plus besoin d'apprendre
l'anglais. Mais si, il y aura toujours besoin de profs d'anglais. Évidemment qu'il y aura toujours besoin de profs d'anglais. Il y aura toujours besoin de tout le monde. Donc j'en ai fait une traduction, mais j'ai pas fait que ça. Vous voyez, j'en ai fait encore autre chose. Eh, il y avait moins de brouhaha pour la docteure en université. Hein. C'est que ça vous intéresse pas ou c'est que ça fait plus débat,
non,
peut-être ?
Je pense que
Je comprends. Je comprends. Mais j'ai aussi fait autre chose. J'ai fait une petite fiche synthèse sur Excel avec les différentes étapes, qui, quoi, comment, quand, les pièces à fournir. Et je pourrais même mettre des cases à cocher derrière. Donc j'en ai fait un fichier Excel, mais j'ai pas fait que ça, regardez. Je me suis dit, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, quand quelqu'un m'envoie un mail, pouvoir lui envoyer une petite description audio de ce qu'il doit faire. Du coup, j'ai fait une petite description audio de comment...
Bonjour, je vais t'expliquer simplement la demande de complémentaire santé solidaire. La CSS, c'est une aide pour payer les frais de santé. Médecin, médicaments, hôpital. C'est gratuit ou pas cher.
Donc je ne vais pas vous faire tout le laïus, ça dure 3 minutes. Mais vous voyez que la voix, c'est pas du tout une voix robotique. Hein, c'est une application qui s'appelle Eleven Labs qui propose ce genre de choses-là, totalement gratuite. Voilà, vous avez 10 000 crédits quotidiens. Alors, toutes les applis d'IA, vous pouvez les tester un petit peu gratuitement, etc. Après, si vous en avez un usage professionnel, malheureusement, effectivement, on arrive dans les usages où il faut payer. Mais non seulement je l'ai fait en français, mais je me suis dit, mince, mais ça se trouve, il y a quelqu'un qui m'envoie, une demande par mail, et du coup, en français, elle ne va pas mieux comprendre. Bah, du coup, j'ai repris la même chose.
نسخة قصيرة باللغة العربية الفصحى. مرحبا. سأشرح لك ببساطة طلب التأمين الصحي التضامني. التأمين الصحي التضامني يساعدك في دفع تكاليف.
Donc c'est exactement la même chose que ce que vous avez entendu en français. Et je vous rappelle qu'à la base, je suis uniquement parti. Je vais vous montrer. Hein. Je suis uniquement parti de votre document. Allez, je l'ai envoyé en haut de mon prompt, demande de complémentaire santé, et je lui ai fait différents prompts. Donc en lui donnant toujours, si vous avez un truc à retenir de mon intervention aujourd'hui, dans le pratico-pratique, quand vous parlez à une IA, retenez trois choses. RCT. Racine Club de Toulon. Non, je plaisante. Rôle, contexte et tâche. Pensez toujours à attribuer un rôle à l'intelligence artificielle. Si vous ne lui dites pas comment elle doit se positionner, alors elle a tellement de connaissances qu'elle ne saura pas où chercher. Si vous réduisez le champ de recherche de sa propre base, alors vous aurez toujours un résultat meilleur. Le contexte, plus vous donnez de contexte, plus elle pourra comprendre exactement ce que vous avez dans la tête. Le contexte, c'est ce qui permet de vous aligner avec l'intelligence artificielle. Et enfin, la tâche, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse vraiment. Ne lui demandez pas d'inventer des choses. C'est à vous d'inventer les choses. C'est vous les utilisateurs. On l'a entendu tout à l'heure, il n'y aura qu'un seul maître à bord de toute décision prise par une IA, il y a des décisions qu'elle n'a plus le droit de prendre, en fonction de l'IA acte, j'y reviendrai à la fin, mais de toute manière, c'est vous qui aurez la responsabilité. Donc, effectivement, ça impose de bien savoir ce qu'elle fait et comment elle le fait. Donc, vous voyez, je lui ai envoyé d'abord votre document, je l'ai fait en Falc, il est là. Ensuite, je l'ai fait en Picto Word. Voilà. Ensuite, donc toujours dans le même prompt, puisque effectivement elle se rappelle des contextes. Alors pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, actuellement on est à plus d'un million de tokens, ça fait l'équivalent de 400 000 à 500 000 mots avant qu'elle oublie le contexte. Donc vous avez jusqu'à 500 000 mots dans la même fenêtre avant qu'elle oublie le contexte du début. Et ça c'est pareil, on a fait x20 depuis la sortie de ChatGPT. ChatGPT, quand il est sorti, il y avait à peine 150 000 tokens, on est à plus d'un million. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer trop dans la technique aujourd'hui, sauf s'il y a des questions à la fin, auquel cas je serais ravi d'y répondre. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant que je vous ai montré ce premier exemple, j'ai envoyé un deuxième exemple à une autre IA qui s'appelle Suno. Et là, je vais vous raconter une petite histoire pour revenir un petit peu dans le sérieux. Suno, c'est mon meilleur copain. Non, je rigole. Suno, c'est ce qui m'a permis de réconcilier plein de jeunes en résistance numérique et en fracture numérique avec le numérique. Suno, c'est une application qui vous permet de générer des chansons. Mais vraiment, je vais vous le montrer. Là, pendant qu'on était là, je lui ai demandé de me générer une petite chanson sur juste la journée qu'on est en train de vivre.
Sous les toits de Limoges, au cœur d'un automne clair, se rassemblent des voix venues croiser leur lumière. Justice, enfance, famille, avenir à protéger. Un forum où l'humain cherche à mieux se réinventer. Ici va le courage, ici souffle le lien. Quand l'ombre se rapproche, une main tend le chemin.
Je crois que vous avez trouvé votre hymne pour le colloque.
Ensemble, nous bâtissons l'espérance.
On l'apprend.
Ouais.
On l'apprend et à la fin, on chante. Hein.
Il faudra l'apprendre. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que quand vous demandez de générer une chanson, ça vous génère les paroles ainsi qu'une pochette de l'album. Donc, vous aurez tout le loisir. Oui, mais vous l'aurez pour les films. Alors... Ceci dit, là, ça a fait rigoler, mais moi, donc je vous ai dit, j'interviens beaucoup sur des formations, amorces de parcours, école de la seconde chance, et je retrouve des jeunes, et je vais vous parler d'un jeune, il s'appelle Théo. Théo, je l'ai récupéré il y a 2 ans à la souterraine, il arrive de Marseille, des quartiers nord de Marseille, c'est quelqu'un de la communauté du voyage qui a vu des choses horribles se passer, voilà, des morts devant lui, des gens de sa famille, s'est retrouvé pupille de la nation, et placé par la ZE dans un ranch en Creuse. Dur pour mon Théo. Et donc je vois arriver mon Théo le premier jour, et mon Théo il fait 1m90, il parle gitan, mais il y a un truc qui se passe quand même entre nous, voilà. Bon, moi je viens aussi un peu de la ville, tout ça, j'ai quelques codes par rapport à certains autres formateurs, et on commence à nouer relation. Mais par contre, il veut vraiment pas utiliser un ordinateur. Il peut pas, il l'a jamais fait, il sait pas écrire, enfin il y a beaucoup de problèmes quoi. Et du coup, je lui dis, attends, mais qu'est-ce que t'aimes, machin? Moi, je fais des textes, moi, je fais du rap. Moi, je viens de Marseille, je fais du rap. Ah, tu fais du rap? Super. Vas-y, écris-moi un texte, et ça te dit qu'on te donne corps à ton texte? Ah bon, c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, il écrit, voilà, tant bien que mal. On corrige rien de ses fautes, etc. Et je lui envoie, dans Suno, et on lui met style Jul, etc. Il a entendu ses paroles, sa musique, son son. Alors... Bien sûr, vous allez dire, c'est une entrée ludique. Mais n'empêche que grâce à ça, il allumait l'ordinateur, et derrière, je lui faisais faire du Pix. Pas folle la guêpe. Alors Pix, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de formation et de validation des compétences numériques, qui est beaucoup utilisée par l'État. Mais bref, ce petit point d'entrée m'a permis de faire en sorte qu'il se mette à la musique. Donc voici un deuxième exemple, je vais vous en montrer vite fait un autre, puisque je vois qu'il me reste déjà que un quart d'heure. Putain, ça passe, c'est ça, hein? Ah ouais, un quart d'heure. Toujours sur votre dossier, la CSS, je me dis, tiens, ce que j'aimerais, c'est en faire un jeu de rôle, parce que je vais être en formation, il y a un changement dans le formulaire, je vais former mes collègues à, justement, les protocoles de ce nouveau formulaire. Je vais en faire un jeu de rôle, tout simplement. Voilà, un petit jeu de rôle où je vais poser des questions, où on va se remémorer ensemble. Alors, les slides sont moches, bien sûr, mais voilà, c'était juste pour vous montrer que, en fait, ce qui fait la possibilité, c'est vos idées. C'est là où, en soi, c'est vraiment génial, l'IA, pour moi. C'est qu'en fait, vous avez une idée, vous donnez vie à votre idée. Vous ne laissez pas guider par l'IA. Attendez pas d'elle qu'elle vous donne des idées, etc. Même si c'est très performant, en idéation aussi, vous pouvez vous en servir. Mais derrière, c'est vous qui allez donner vie à tout ce que vous avez dans la tête. Donc, traduction en file, document administratif. Pareil, je vais vous montrer un autre petit exemple. J'arrête avec ma fiche synthèse. J'ai pris un autre exemple qui est la génération de courriers auto. Évidemment, vous faites toute la journée, vous demandez de faire des courriers automatiques, des courriers à la CAF, des courriers à la banque, des courriers, etc., etc. Mais en fait, l'IA, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans la génération de ces courriers. J'entendais tout à l'heure, en fait, la tonalité, c'est vous qui allez la donner. En fonction de comment vous avez envie que votre message passe. Donc ça, c'est des méthodes de prompting. Si vous utilisez, par exemple, une méthode qui s'appelle ACTIF, c'est ce que j'enseigne notamment dans mes formations. ACTIF, ça veut dire action, contexte, identité, format et tonalité. Action, contexte, tonalité, identité, format. Donc là, vous faites un tableau, vous mettez ACTIF en haut. Donc, quelle est l'action ? L'action, c'est la tâche. OK ? Quelle est l'identité ? Quel est le spécialiste ou les spécialistes que j'invoque pour faire cette tâche ? OK ? Quel est le format ? Est-ce que je veux un PowerPoint ? Est-ce que je veux un CSV ? Est-ce que je veux un Word ? Est-ce que je veux un Excel ? L'IA est capable de coder n'importe quel type de langage. Je sors avec l'IA des plans AutoCAD FreeCAD pour des architectes, des plans pour des impressions 3D, des fichiers STL, etc. C'est encore une fois, sur tout ce qui est programmation informatique, c'est vraiment un outil hyper performant. Elle vous prend une image en JPEG et vous la transformez en n'importe quoi, en PNG, en SVG. Demain, vous avez besoin d'envoyer un truc pour un imprimeur, et bah, vous envoyez votre photo et vous dites, bah, voilà, pour un imprimeur, il me faut du PDF avec les bordures, les machins, les trucs, enfin, vous donnez le contexte, et elle vous sort en sortie ce que vous avez demandé. Voilà. Hop. Donc, je reviens, sur mes exemples. Donc, le Suno, je voulais le montrer. La simplification, je voulais montrer. Je vais juste, avant de terminer sur ma dernière partie, vous montrer un autre exemple. C'est vrai que les tâches administratives, il ne faut pas tous les automatiser. Par contre, on ne va pas se mentir, avoir un petit automate pour trier les pièces jointes quand elles arrivent et directement aller les enregistrer dans un dossier, ça peut être pratique. Ce que je vais vous montrer est une autre application d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle une application d'automatisation. Alors peut-être il y en a qui utilisent déjà Power Automate, il y en a qui utilisent la suite Office ici ou pas du tout. Voilà. Alors Power Automate, c'est l'équivalent de ce que je vous montre là, sauf qu'il est intégré à la suite Office. Un automate, ça sert à quoi ? Ben, ça sert à programmer différentes tâches et que ces tâches s'exécutent sans que vous ayez à vous en occuper. D'accord ? Alors, encore une fois, ça va être la réflexion, mais quelles tâches je peux vraiment mettre derrière ? Eh ben, typiquement, alors moi j'en ai plusieurs qui tournent en ce moment, j'en ai une qui s'appelle Infolettre IA. Tous les mois, tous mes clients, enfin ceux qui sont inscrits sur la liste, reçoivent une newsletter avec tout ce qui s'est passé le dernier mois pour les TPE-PME, pour l'économie sociale et solidaire, pour en matière d'intelligence artificielle. Eh bien moi maintenant, pour envoyer une cinquantaine de newsletters par mois, ça me prend à peu près 3 minutes. Pourquoi ? Parce que j'ai construit mon automate. Alors mon automate, c'est ça, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire que j'ai programmé des tâches. Il y a ce qu'on appelle un déclencheur. Mon déclencheur, c'est tous les mois à 10h du matin. Donc mon automate se réveille tous les mois à 10h du matin. Paf, il se réveille, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher sur un Google Sheet. Alors un Google Sheet, si vous avez OneDrive, vous pouvez le mettre sur un OneDrive, mais globalement, il va aller chercher des infos sur un tableur. D'accord ? Donc moi, je lui demande de récupérer toutes les adresses mail, puisque tous les mois, moi, j'ai un petit... sur mon drive, vous voyez, je vais vous montrer, j'ai un petit listing apprenant pour infolettre. Et tous les mois, en fonction de qui a envie, je les remplis avec les adresses mail qui sont là, etc. Voilà. Et donc là, je peux en rajouter. Donc, 10h du matin, il vient vérifier. Il prend toutes les adresses mail. Hop, je reviens sur Zapier. Et pour chacune des adresses mail, il va aller récupérer dans le drive l'infolettre qui a été générée donc, par l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, je vais vous montrer celle d'octobre, puisqu'elle est partie hier à 10h du matin. Voilà. Donc, tout ce contenu là que vous voyez, il y a 25 pages, c'est tout généré par intelligence artificielle. Alors, quand je dis tout généré, je suis sur mon canapé ou en train de fumer une clope dehors. Je discute avec l'IA et je lui demande d'aller me faire des recherches sur ce qui s'est passé le dernier mois et ce que je veux mettre dans ma newsletter. J'itère. Alors, itérer, ça veut dire avoir une suite de conversations. Une fois que j'ai mes sujets, je lui dis, c'est parfait, tu me rédiges avec le ton, avec le format que je veux, etc. Tant de mots, tant de caractères, telle tonalité. Je fais mon édito, pareil. Je dis, je veux un édito qui parle de ça, qui parle de ça, qui mette l'accent là-dessus, 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 là-dessus. Je fais un édito très engagé au mois de septembre, justement, sur l'arrivée de l'IA Act, etc. Et donc, elle prend ma newsletter et elle l'envoie à tout le monde. Voilà. Et donc ça, maintenant, j'ai plus à m'en occuper. Tous les mois, ça le fait automatiquement. Et j'en ai un autre que je vous ai monté rien que pour vous, pour aujourd'hui. J'imagine que parfois, vos usagers vous envoient des pièces justificatives. Des CV, des courriers de la CAF, des factures, etc. Voilà. Et bien là, j'ai créé un automate qui s'appelle gestion de mail. Alors, je vais l'activer après. Donc, qu'est-ce que fait mon automate ? À chaque fois qu'il y a un mail qui arrive avec une pièce jointe, donc il est capable de voir hein, sur ma boîte mail, il y a un mail qui arrive avec une pièce jointe. Il va analyser ces pièces jointes. Il va analyser plusieurs composants de la pièce jointe. Il va analyser le sujet et il va analyser le corps de cette pièce jointe. S'il voit le mot CV sur la pièce jointe ou dans le corps du mail ou n'importe où dans le sujet, etc., il va m'envoyer cette pièce jointe dans mon drive, dans un pardon, dans un dossier qui s'appelle, vous voyez, je suis dans gestion de mail, j'ai un truc qui s'appelle CV, et donc tous les CV qui vont arriver, ils vont être basculés ici, automatiquement, sans que je m'en occupe. Moi, j'ai juste le soir à aller voir dans ma colonne CV tous les CV qui sont arrivés, etc. Là, je l'ai organisé comme ça, mais vous pouvez les organiser par personne, c'est-à-dire pour regrouper tous les éléments d'une personne, etc. C'est pour ça qu'avant de monter un automate, il faut aussi réfléchir et il faut se former. Hein, je suis désolé, je vais y revenir toujours, mais il faut se former à comprendre la logique de l'automate, à quoi ça sert, etc. Et ce qui fait que là, si j'envoie un mail, hop, donc là, j'ai fait pareil pour CV, j'ai fait pareil pour CAF, j'ai fait pareil pour banque, et tout ce qui n'est pas dans ces trois-là, je les ai appelés divers, c'est-à-dire que j'ai dit à mon automate, si tu ne vois pas CV, si tu ne vois pas banque, si tu ne vois pas CAF, tu me places dans un dernier dossier qui s'appelle divers et qui est ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez m'envoyer un mail. S'il y a CV n'importe où dans le mail, paf, le mail va directement dans le CV va directement au bon endroit. Et non seulement ça, mais j'ai également un autre automate qui s'appelle gestion de mail, qui lui va faire une action différente. C'est que lui, quand vos mails arrivent, il va me remplir un template que je vais vous montrer de suite. Un template que je vais retrouver, gestion de mail, voilà. Voilà. Il va me remplir un template où automatiquement il va me trier les mails, nom, prénom, le mail, l'objet, le corps du mail. Le scoring de l'importance, c'est-à-dire que tous les soirs je vais consulter ce document et je vois qu'est-ce qui potentiellement est important et surtout quelles sont les actions à réaliser. Donc si demain vous m'envoyez un mail urgent, facture à payer, etc., je vais avoir votre nom, votre prénom, votre adresse mail, l'objet, et derrière le corps du mail avec votre message. Et derrière, moi j'arrive et je dis ok, qu'est-ce qu'il y a à prioriser tout de suite, qu'est-ce qu'il y a à prioriser plus tard, et qu'est-ce que j'ai à faire exactement. Donc ça me permet le soir ou au bout de la semaine d'avoir une synthèse et un scoring, j'allais dire, de mes mails. Voilà pour ces exemples. J'arrive donc à la fin, il me reste 10 minutes pour passer sur justement, parce que là j'étais dans l'effet waouh, je vous ai dit c'est super, c'est génial, on peut faire plein de choses. Et c'est vrai. Par contre, ça nécessite quand même effectivement une posture. Ça, une posture et effectivement de savoir analyser les risques. C'est ce que j'appelle les commandements de l'IA. Évidemment, l'IA, c'est un logiciel. Tout logiciel a des biais. Et donc, effectivement, en fonction des données sur lesquelles elle est entraînée, hein, poser une question à une IA chinoise et une IA américaine et une IA française, la même question sur des sujets un petit peu touchy, poser des questions sur la guerre de Corée à une IA chinoise, vous allez voir, c'est très intéressant, la différence d'approche entre DeepSeek, justement, et Mistral ou OpenAI. Mais il faut en avoir conscience. Voilà, si au moins on a conscience de ça, et c'est pour ça que c'est très important que vous parliez du sujet pendant deux jours, c'est pour ça que c'est très important qu'on vous mette en face de la réalité de ce que c'est aujourd'hui, et de sortir de cette science-fiction, c'est de se dire, oui, alors moi j'irais même plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, je pars du principe qu'il faut que vous disiez qu'à partir du moment où vous produisez quelque chose avec l'IA, il y a une erreur, et c'est à vous de la chercher. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de faire ce boulot de vérification tout le temps et pas tomber dans cette facilité, effectivement, de dire « Ah, ça l'a fait bien une fois, ça l'a fait bien deux fois, ça l'a fait bien 15 fois, et paf, à la 16e fois, ah, j'ai pas vérifié. » Il faut tout le temps vérifier. J'ai beau faire ce genre de contenu régulièrement, je remets mes chiffres à la page régulièrement, je continue à me renseigner sur les dernières données publiées, je continue, quand elle me produit un exercice pédagogique, à vérifier, et je fais bien, encore hier, je fais une formation pour des agriculteurs la semaine prochaine, l'IA appliquée à l'agriculture, pour des petits agriculteurs de chez nous, donc vraiment toute petite exploitation. Et là, je m'aperçois que dans un des exercices qu'elle m'a produit, elle a fait une erreur, elle a rajouté une lettre, donc dans mon fameux RCT dont je vous parlais tout à l'heure, hein, rôle, contexte, tâche, elle m'a mis le F dedans, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Mais je sais pas, hein, alors que depuis tous mes documents, c'était toujours RCT, rôle, contexte, tâche, etc. Et là, elle a inventé un format dans le RCT qui n'y avait pas. Donc si je ne fais pas cet effort intellectuel de relire et de passer du temps à reprendre, moi c'est simple, de manière, tout ce qui est produit, j'ai la volonté de toujours y amener un petit peu ma patte, mais parce que je suis humain, et je pense que vous aurez tous cet aspect-là. Au début c'est génial, on se dit ça fait les choses pour moi, mais après on se dit ça les fait pas mal, mais je suis sûr que je peux faire mieux, et du coup toujours vous allez apporter une petite patte. Là même mon PowerPoint, il y a eu un premier jet de ce PowerPoint, mais j'ai repris plein de choses, plein de détails, etc. Bon, ça m'a quand même pris vachement moins de temps à reprendre les détails qu'à le faire en entier. La protection des données, effectivement, c'est la base. Donc le RGPD est là pour nous protéger. Je rappellerai jamais combien, en tant qu'Européen, on devrait s'estimer heureux d'avoir ce type de règlement qui marche. Voilà, j'étais avec Xavier Delporte, le directeur des relations publiques de la CNIL, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois et demi. On faisait une table ronde, ici même à la BFM de Limoges. Et il m'expliquait que même les Américains sont jaloux de notre RGPD, que c'est un texte qui est vraiment regardé partout dans le monde, et effectivement, on est les internautes les mieux protégés au monde. Et l'IA Act, donc, qui est rentré effectivement, qui a été élaboré, qui est rentré en vigueur l'année dernière avec les premières mesures applicatives dès cette année, cadre et commence à cadrer l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce qui effectivement, selon moi, est indispensable. Il faudra s'arrêter avant l'IA générale, pour moi c'est clair. Il faudra légiférer très fort. Il faudra faire comme on a fait avec la génétique, avec Dolly. Vous vous rappelez de Dolly, la brebis clonée? Moi je l'ai connue cette histoire. Hein. Du jour au lendemain, on se retrouve avec un truc et on nous dit, on a pris une brebis et on a la même. Wow. Et collectivement, la communauté mondiale, scientifique, mais pas que, s'est dit, là il faut qu'on arrête. On ne peut pas demain ne plus savoir si on parle à un clone ou à un humain. Donc on a continué à faire de la recherche sur la génétique, mais on a stoppé tout ce qui était clonage humain, etc. Et collectivement, hein, y compris les Chinois, les Russes, qui vous voulez, collectivement, on s'est dit, non, là, on ne peut pas aller trop loin. J'espère qu'on fera pareil avec l'IA. Le seul problème, c'est plutôt qui dirige l'IA. c'est plutôt ça le problème. Tu parlais des transhumanistes tout à l'heure. C'est effectivement plus dans le qui contrôle l'IA et qu'est-ce qu'ils veulent en faire qui m'inquiète que plutôt dans nous, nos usages. Voilà. C'est une dépendance excessive. On l'a vu avec ces jeunes Américains qui se sont retrouvés du jour au lendemain perdus parce que leur version nounou de ChatGPT avait disparu au profit d'un prof factuel, clair, net, qui leur disait « Bah oui, c'est comme ça. Ah oui, mais avant, tu me disais que j'étais super. Bah oui, mais non, c'est comme ça. Ah bon ?» Et effectivement, tout ce qui est escroquerie, tout ce qui est deepfake, etc., vous avez les moyens maintenant de contrôler qu'une image est faite par IA. Par contre, il faut avoir la conscience que maintenant, il faut aller vérifier ces images. Voilà, on ne peut plus partir du principe qu'une image est forcément vraie, qu'une vidéo est forcément vraie. Donc c'est un effort intellectuel supplémentaire à faire de se dire que, eh ben oui, j'ai une étape de vérification supplémentaire à faire par rapport à l'information. C'est une fracture numérique qui peut potentiellement s'augmenter, clairement. J'ai commencé ce métier il y a 10 ans, on parlait de 13 millions d'électroniques. Ben malheureusement, j'ai le regret de vous dire qu'on est quasiment à 20 millions d'électroniques en France aujourd'hui, parce que la fracture, non seulement elle se réduit pas, mais elle continue de s'augmenter. Et avec l'arrivée de l'IA, effectivement, il faut surveiller, et c'est votre enjeu, notre enjeu, moi mon enjeu de formateur, vous votre enjeu de personnes qui protégeaient les familles vulnérables, d'expliquer, de former, de montrer que oui, même pour votre public, ça peut être un avantage, et donc ça veut dire qu'il faut que vous vous empariez du sujet également. Donc la posture professionnelle que je recommande effectivement, ça va être d'accompagner sans remplacer. Voilà, c'est vraiment le but. Pour moi, il faut que ça vous dégage du temps pour passer plus de temps avec l'humain. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le vôtre. Mais j'ai formé toute une équipe d'une boîte de TPE, une vingtaine de gars dans la rénovation, etc. Et en fait, j'ai redonné du temps au chef d'entreprise, notamment sur sa gestion de mail. Je l'ai vu quelques semaines après la formation. Donc, ils avaient construit tout un tas d'outils. Ils ont un suivi de chantier qui est bien meilleur pour leurs clients. Ils ont amélioré leur qualité de prestation, etc. Mais surtout, il me dit, putain, moi, j'ai libéré un temps de fou. Je passais ma semaine à gérer des mails, des devis, des trucs comme ça. Je passais ma semaine à faire ça. Maintenant, la moitié de semaine, je suis sur mes chantiers. Voilà. C'est ce que je vous souhaite aussi, de pouvoir automatiser tout un tas de trucs qui, effectivement, vous prennent beaucoup de temps pour pouvoir faire plus de rendez-vous au quotidien. De toute manière, on ne va pas se mentir, c'est ce qui va vous être demandé. Parce que j'étais avec mon banquier il n'y a pas longtemps qui m'expliquait que ça y est, dans la banque, ça arrive. Hein. Il a des boutons avec de l'IA dedans, donc leur propre modèle, etc. Hein. Il faudra qu'à terme, on ait des modèles souverains qui tournent en local, etc. Mais là, je n'ai pas le temps de rentrer sur le sujet, évidemment. Mais c'est de tout simplement, on lui a dit, bah, c'est simple, tu vois, le DUT que tu avais, que tu mettais 2 jours à faire, maintenant il est fait en 3 secondes. Par contre, ça signifie que tu as 30 clients de portefeuille, tu as 30% de portefeuille client en plus. Objectivé, hein. Et dès cette année. Hein. Et c'est la CIC, hein, banque mutualiste, tout ça. Hein. Voilà. Donc c'est effectivement un des risques de l'IA, c'est effectivement un des risques. Ça va faire plus, ça va faire mieux, mais du coup, à nous, humains, on va nous en demander plus, et c'est à ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Il faut garder l'humain au centre et vraiment voir l'IA comme un outil et un assistant. Elle ne nous remplace pas, elle ne nous empêche pas de penser, elle permet juste de mettre de la vie à nos idées. L'IA ne remplacera jamais un cœur, c'est beau. Mais elle peut vous rendre du temps pour battre au rythme des publics. C'est évidemment... C'est évidemment une phrase qui n'est pas de moi. Mais c'est exactement l'intention que j'avais sur cette slide-là. C'est ça qui est important. Sur cette slide-là, je voulais le dire d'une certaine manière, mais qui n'était peut-être pas la bonne. L'IA m'a permis de reformuler, de faire un visuel joli, alors certes en anglais, je sais, mais de donner, encore une fois, vie à un slide que j'avais dans la tête et que j'aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à faire. Et on arrive au moment des questions.
On a quelques questions. Je vais prendre des questions d'abord techniques. Alors, en question technique, nous avons quelle IA a utilisé pour créer des PowerPoint ? Quel logiciel pour créer de l'automate ? Zapier, il me semble. Est-ce que Zapier fonctionne avec le Drive ou on peut également l'utiliser avec la suite ? L'automate est une bonne idée pour les dossiers, mais si nous voulons créer par famille ou par personne, comment faire ? Nous restons anonymes pour préserver l'identité des personnes accompagnées. Je me questionne sur l'intérêt et la fonctionnalité dans notre secteur du travail. Juste une petite question, c'est un peu à part, enfin vraiment. Comment vérifier que l'audio en arabe est juste si vous ne parlez pas la langue ? Et il faut demander à Google Traduction. Voilà les questions d'abord techniques, après j'ai une ou deux autres questions plus philosophiques.
Ça marche, avec grand plaisir. Alors, première question technique, quelle appli pour faire les PowerPoint ? Bien. Alors là, vous voyez, j'utilise toujours moi des IA génératives pour m'aider à faire les plans, pour m'aider à réfléchir. Donc là, normalement, je devrais relire ce qu'elle dit, etc. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer la capacité de production. Ça m'a fait un plan, donc là c'est les métiers de la protection sociale en France. Hein, voilà, j'ai pas cherché bien loin. Je prends mon plan directement. Encore une fois, je devrais prendre le temps de relire, de me dire ce qui est dit, etc. Et je passe par une application qui est merveilleuse, qui s'appelle Gamma. Alors celle-là, Gamma, G-A-M-A. Donc là, vous pouvez générer soit en parlant, vous pouvez importer vos propres fichiers, Alors, avec hein, tout ce que ça comporte, hein, RGPD, etc., etc. Faites gaffe quand vous le faites. Après, il y a le toujours pareil, hein, le fond et la forme. Donc là, je vais coller du texte. Vous voyez, je vais juste coller mon plan. En fait, là, je vais lui dire génération à partir d'une note ou d'un plan. Et elle, donc, va analyser toutes mes notes. Elle va les découper par carte. Donc là, vu que j'avais fait la découpe avant, vous voyez, j'ai bien 12 slides. Hein. Là, je lui demande quel style je veux. Donc voilà, condensé, préservé, minimaliste, concis, détaillé, voilà. J'écris pour et quelle tonalité je veux, dans quelle langue. Après, je choisis mes templates. Alors, il y en a plein. Moi, je prends le mien que j'ai enregistré. Et ça y est. Et là, vous allez le voir sous vos yeux. En moins de 20 secondes, il y a une première version qui va être générée. Une première version. Pas la version définitive, on est bien d'accord. Parce que là, vous allez reprendre ça et vous allez commencer à retravailler, etc. etc. Donc là, elle a analysé mon plan. Par rapport à ses connaissances, elle va compléter mon plan. Elle va y ajouter des visuels. Et après, c'est à vous de faire le boulot, d'aller voir. Donc, juste pour faire ce genre de petit slide là, avec des camemberts, des machins, pour tous ceux qui en ont déjà fait, c'est long. Hein. Pour faire que le truc il soit bien au milieu et tout, c'est quand même super long. Hein. Donc encore une fois, là, c'est vraiment un exemple tout fort. Ensuite, j'avais quoi d'autre comme question, tu m'as dit ? Alors oui, automatisation. Donc pour les automates, c'est effectivement Zapier qui est une IA open source et qui permet de créer différents automates sur différentes plateformes. En fait, quand vous créez des automates, là, l'IA, en fait, elle permet aux différentes applications de se connecter entre elles. Ça permet à votre Google Drive de vous connecter avec votre Trello, qui va communiquer avec votre Slack, qui va communiquer avec, bref, tous vos outils métiers. Mais oui, il faut faire de la formation, je vous confirme. Et donc juste, vous voyez, hop, en 20 secondes, j'ai donc produit un PowerPoint qui, ma foi, est d'une qualité correcte. Alors, je pourrais changer les visuels, je pourrais tout changer. Mais vous voyez, on va retrouver quand même, on va dire, la base, voilà, d'une manière très rapide. Alors là, je vous ai montré des slides, mais vous faites des films pareils. Hein. Je fais des films maintenant en moins de 5 minutes, hein, des films éducatifs, pédagogiques, etc. Vous avez des chiffres, voilà. Et après, encore une fois, hein, ça, c'est une base. Et c'est à vous, en tant que professionnel, de reprendre cette base. Donc oui, Zapier pour l'automatisation et Power Automate pour ceux qui ont... Et maintenant, vous pouvez tout faire à la voix. C'est-à-dire que quand vous créez un automate, vous voyez, vous avez Copilot qui va arriver également. Hop. Et en fait, vous pouvez décrire votre automate ici. Vous dites, voilà, je veux que quand un mail arrive, ça fasse ça, ça fasse ça, ça fasse ça. Et lui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Windows, hein, c'est que lui, il va prendre en compte vos demandes et il va le transformer en données techniques. Voilà, il va construire un automate techniquement et vous allez bouger votre automate techniquement, mais de la même manière avec un site internet, avec une application métier ou etc. Okay. Ensuite.
On va peut-être faire les questions allez. Philosophiques.
Alors, être satisfait de toutes ces facilitations qui sont en fait parfois vraiment facilitent la vie, mais n'est-ce pas oublier, voire méconnaître, la complexité du travail social et celle de la relation d'aide?
Alors pour moi, je fais vraiment une différence entre le volet... alors là, bon, moi je connais assez peu finalement votre métier d'accompagnement, même si je suis souvent au contact à travers les jeunes que je suis de vos différents services et puis même de certains d'entre vous. Mais moi, je fais une vraie différence entre justement ce qui va être facilitant par l'IA et ce qui me permet, moi, de gagner du temps. Typiquement, encore une fois, moi, j'individualise maintenant toutes mes formations. J'ai 9 jeunes devant moi. Je suis capable de leur produire 9 exercices différents en fonction de leur niveau d'apprentissage, en fonction de leur niveau d'implication. Je suis même capable de changer de méthodologie, de pédagogie d'un apprenant à l'autre. Voilà. Et de produire en direct des contenus que j'ai dans la tête, hein. Bien sûr, c'est mon expertise, mon expérience qui fait que je sais rebondir et je sais que là, j'étais parti sur cette approche, mais il m'en faut une autre. Mais surtout, ça me libère du temps pour être avec les jeunes, pour discuter beaucoup plus. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites ce qu'on appelle une matrice des opportunités, là, demain, quand vous rentrez. Vous prenez, voilà, toutes mes tâches. Voilà, le lundi, je fais quoi, le mardi, je fais quoi, etc. Parmi toutes ces tâches, qu'est-ce qui... je veux absolument garder de manière manuelle, qu'est-ce que je peux un peu automatiser, qu'est-ce que je peux, alors pas confier à l'IA, j'aime pas ce terme de confier à l'IA, on confie rien à l'IA. L'IA c'est Word, d'accord, c'est un logiciel comme Word, sauf que Word vous tapez dessus, voilà, vous pouvez même dicter à la voix vos textes et elle vous fait des mises en page, des machins. Bon, l'IA fait plus de choses, mais c'est un logiciel, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas lui dire s'il te plaît, merci, etc. Ne jamais dire s'il te plaît, merci à ChatGPT, Gemini ou etc. Jamais. Vous dites pas merci à Excel quand il vous fait une super macro. Bon, dites pas merci à ChatGPT.
Alors, on entend souvent que l'IA fait gagner du temps, mais dans la réalité, on a l'impression d'en avoir moins. On gère plus de flux, plus d'outils, plus d'ajustements. Est-ce que finalement, cela ne complexifie pas nos journées au lieu de les simplifier?
En fait, ce qui complexifie nos journées... c'est la hiérarchie, c'est les gens qui vont nous demander d'en faire plus parce que justement il y a des outils supplémentaires. C'est ça le vrai problème. Non, mais je rigole pas avec ça. Je viens d'un milieu, donc le numérique, je connais beaucoup de développeurs d'applications. Eux, leur métier a changé, hein. Du jour au lendemain, il a totalement changé. On a fait une étude avec le syndicat Numéum, qui est le syndicat du numérique en Nouvelle-Aquitaine. 88% des boîtes au 1er juillet 2024... 2025, au 1er juillet 2025. 88% des boîtes du numérique ont déjà entamé le virage de l'IA, c'est-à-dire qu'on ne va plus chercher, notamment dans des compétences techniques de développeurs, on va chercher maintenant du soft skill. Voilà, on ne me demande que du soft skill en formation, je forme aussi des développeurs. Alors, des soft skills, c'est tout ce qui n'est pas de la technique. C'est-à-dire, c'est la capacité à travailler avec l'autre, c'est la capacité à travailler en équipe, c'est la capacité à se remettre en question, enfin bref, c'est tout ce qui fait de nous des humains. Et moi, dans ces métiers-là, on ne cherche plus de techniciens.
parce qu'on a compris que l'IA faisait mieux le code que les humains, et c'était pas un problème. Par contre, il allait falloir des humains qui soient capables de comprendre tout l'écosystème, il va falloir des humains qui continuent à avoir des idées, etc. etc. Mais juste pour vous expliquer, avant, quand un client venait vous voir et vous demandait de créer une application pour un besoin métier, vous aviez 3, 4, 5 rendez-vous, ce qu'on appelle d'idéation. Vous savez, on met des post-it partout, jaune, vert, rouge, machin, ouais, ça c'est bien, ça c'est super, voilà. On passe 4 jours à faire ça. Au bout de 4 jours, vous laissez le prestataire faire et il vous revient au bout d'un mois ou deux avec ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Et quand vous avez de la chance, vous en avez 2 dans le prix de départ. Bon, eh ben, nous, dans le numérique, maintenant, quand vous arrivez en clientèle pour un client qui veut une application, dans la journée du premier rendez-vous, vous lui sortez 5 ou 6 Proof of Concept grâce à l'intelligence artificielle. Et il n'y a plus de techniciens, il y a juste des mecs spécialistes de l'IA qui itèrent et qui proposent aux clients plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, les fonctions plutôt ça, plutôt comme ça, l'identité visuelle plutôt comme ça, plutôt comme ça. Et effectivement, il y a un vrai problème de valorisation. Pourquoi je reviens par rapport à cette question ? Pour les entreprises du numérique, un vrai problème de valorisation de ce travail. Avant, on mettait 3 semaines à 1 mois à faire un POC. Maintenant, en une journée, on en fait 4. Mais comment on valorise ça ? C'est un vrai problème, puisque le client, lui, pour lui, vous avez fait qu'une journée. Hein. IA, pas IA, vous avez fait qu'une journée. Hein. Voilà. Et bien vous, dans vos métiers, ça sera pareil. Avec mon banquier, ce que je disais, c'était pareil. C'est effectivement, pour lui, c'est formidable. Il appuie sur un truc, ça lui fait un DUT. Il contrôle son DUT, mais n'empêche qu'avant, il mettait 2 jours à faire un DUT. Et aujourd'hui, il met 20 minutes à contrôler le DUT qui est produit par l'IA. Par contre, on lui a demandé, dès cette année, d'avoir 30% de clients de plus. Et malheureusement, on ne va pas se mentir, hein, dans vos métiers, ou comme dans le mien, hein, je suis dans l'inclusion numérique, dans l'économie sociale et solidaire, on n'a plus un rond. Hein. On voit bien les arbitrages qui sont faits. Et même en formation professionnelle, hein, le PFR, le plan de formation région, ils nous ont réunis au mois de juin, ils nous ont dit, les gars, il y a 30% des formations qu'on devait financer, qu'on ne financera pas. Donc on a dû arbitrer, il y a 30% des formations, du plan régional de formation, qui en septembre n'ont pas ouvertes, parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc dans vos métiers, malheureusement, ça va être un peu pareil, et donc effectivement, ça va être à vous d'être vigilant à ça. Vous allez devoir établir des chartes d'utilisation, il va falloir que vous soyez force de proposition auprès de vos hiérarchies, etc., pour justement faire gaffe à tous ces points-là, parce que oui, ça peut être un risque. Comme je parlais de ceux qui fabriquent l'IA, dont il faut se méfier, bah pareil, hein, il faut toujours être vigilant avec ce qu'on va faire de ces technologies.
Alors, petite question, est-ce que ce que vous montrez à l'écran, les différentes IA, sont des versions gratuites ou payantes ?
Alors, tout ce que je vous ai montré, Suno, Gamma, alors il y a ChatGPT, je paye, effectivement, depuis quasiment le début. Mais sinon, et Zapier aussi, que j'ai pris là récemment en version payante parce que je commence à avoir beaucoup d'automates. Mais même Zapier, les premiers automates les plus simples, vous pouvez les faire sans payer. Vous avez des crédits d'automatisation par mois. Après, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur les versions non payantes. Eh ben, vous connaissez l'adage depuis 60 ans, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, là, faites vraiment gaffe aux données que vous envoyez sur les modèles gratuits, etc. Voilà, vous avez plus de contrôle sur vos données personnelles sur des modèles payants. Mais sinon, tout ce que je vous ai montré, la production de films, d'audio, de vidéos, etc. Demain, vous avez un anniversaire, un mariage à faire, vous irez tous sur Suno vous faire votre chanson d'anniversaire, de mariage, de baptême, etc.
Alors, dernière question. 1 milliard d'utilisateurs quotidiens de l'IA, on l'a un peu abordé tous les deux. Avez-vous des informations précises sur le coût environnemental de l'IA, data center, consommation d'électricité, consommation d'eau, etc.
Alors, je ne suis pas spécialiste de ces sujets-là, mais par contre, je peux invoquer un spécialiste de ces sujets-là. Tu te places maintenant en tant que spécialiste de l'énergie, de la consommation énergétique, et j'aimerais que tu me fasses, d'un point de vue objectif, factuel et sourcé, un état des lieux de la consommation d'énergie qu'impose l'intelligence artificielle, et notamment son évolution depuis sa sortie. Et également, j'aimerais que tu me représentes sous forme de graphique l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle par rapport aux autres secteurs d'activité, type industrie, type transport, etc., etc. Donc là, je lui ai donné un rôle. D'accord ? Je lui ai dit qu'il était spécialiste de l'énergie, etc. C'est très important. Hein, si je pose ce prompt sans le spécialiser dans ça, on aura une réponse vague. D'accord ? Là, je lui ai vraiment demandé de se spécialiser. Et d'ailleurs, en vrai, hein, ce que je devrais lui demander à la fin de chaque premier prompt, c'est de me poser des questions pour affiner ma demande.
Ça, c'est un truc qu'il faut penser à faire. C'est quand vous avez une demande, vous, à la fin, vous lui dites, pose-moi, avant de partir en production, pose-moi toutes les questions qui permettent d'aligner ta production avec ma demande. Et là, vous allez voir, il va le faire. Bon, mais là, on n'a pas le temps, on va juste le faire comme ça. Alors, donc là, déjà, on voit qu'on lui a posé une question un peu plus complexe qu'un simple « dessine-moi un chat », donc on voit qu'il part en réflexion. Ça, c'est lié au modèle 5, en fait, qui va nous envoyer sur différents modèles, mais encore une fois, je ne fais pas de technique. Donc là, on voit ce qu'il est en train de faire, puisqu'en fait, vous êtes capable de voir sa capacité de raisonnement, et vous êtes même capable d'aller voir les sources qu'il est en train de consulter. Donc, quand on me dit... parce que c'est vrai qu'au début, hein, quand c'est sorti, ça sortait n'importe quoi. Il y avait beaucoup d'hallucinations. Moi, je me rappelle, les premières fois que je faisais l'exemple, je lui demandais de m'imaginer la rencontre entre Louis XIV et Napoléon. C'était pas un souci. Il vous inventait une rencontre entre Louis XIV et Napoléon à Versailles. Voilà. Reposez-lui la question aujourd'hui, il vous dira non, mais ça c'est impossible, mon pauvre ami. Par contre, si tu veux, on peut imaginer une histoire poétique, etc. Voilà. Et donc, vous voyez là, toutes les sources, elles sont consultables. Hein. Vous voyez, donc là, je peux aller voir où c'est qu'il est en train d'aller prendre ses infos. Alors, il y en a un peu à l'étranger, il y en a un peu en France. Voilà. Et là, il est en train d'analyser, vous voyez, un nombre de sources incalculable. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'en suis à 14, 16, 20, 30, 40 sources. Une fois qu'il a analysé la source, eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne fait pas de la magie, il fait du code Python. Voilà, s'il y a 2-3 informaticiens dans la salle, sachez qu'une IA, simplement, elle transforme votre langage naturel en code informatique, en l'occurrence en code Python. Voilà, et on le voit s'exécuter, ce code Python. Et du coup, il est capable, effectivement, de nous générer un graphique qu'on va analyser de suite. Et après, évidemment, hein, votre boulot après, c'est d'aller vérifier les sources, les chiffres, etc. Et pas de vous arrêter à ce qui est produit là. Là, je suis totalement d'accord. Notre boulot à nous, c'est plus de produire. C'est-à-dire que le temps que vous auriez passé à faire cette étude, eh ben, vous le passez plus. Par contre, le temps que vous allez devoir vérifier cette étude, il est très, très, très important. Donc en 2025, tac, 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 part spécifique de l'IA dans les data centers, mais en forte accélération, selon la revue. Donc voilà, je vous rassure, hein. L'industrie reste largement devant. Ensuite, on a le bâtiment. Hein, voilà. Ensuite, on a le tertiaire et services publics, le transport, l'agriculture. Voilà. Et après, les centres de données et l'IA dans les centres de données. Alors, pour l'instant, c'est encore assez faible, hein, puisque pour l'instant, c'est surtout nos données personnelles, hein, les data centers, hein, qui consomment beaucoup d'énergie. Mais tout ça, encore une fois, c'est en évolution très, très, très rapide. Voilà. Là, on pourrait faire une analyse sur les 6 derniers mois. On verrait déjà l'évolution sur les 6 derniers mois.
Eh bien, merci. Merci beaucoup. Passionnant.